Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Seulement 6 nouveautés à l'affiche, ça faisait longtemps qu'on en avait eu aussi peu, mais bon, on a des films très variés, très divers et qu'on a plus ou moins apprécié. On parlera de Lui, de Barbac, de The French Dispatch, La Fracture, Pig, Last Night in Soho. Voilà, donc pour la programmation musicale, on a été pioché un petit peu dans tous les films, parce qu'il y avait de la musique dans quasiment tous les films. Et on va commencer par un titre que l'on entend dans le film Barbac. On entend plusieurs titres dans Barbac, mais j'ai retenu Born to be Wild, Steppenwolf. Ça va vous rappeler votre jeunesse, si vous êtes un petit peu vieux comme moi. Voilà, Steppenwolf,
années 60.
Born to be Wild. Ouais, ça doit être ça, hein.
Ouais, oui, oui.
Voilà. Born to be Wild, Steppenwolf, un titre que l'on entend dans le film Barbac et qu'on pourrait certainement entendre dans l'émission de Pierre.
Oui, ça doit être la fin des années 60.
Hein. Oui, alors l'émission de Pierre, autopromotion, promotion, rappelons-le, c'est le samedi.
De 16h à 17h.
Voilà. Eh bien, lui, c'est le titre du premier film dont on va parler cette semaine. C'est un film de Guillaume Canet, bien connu comme acteur, mais aussi réalisateur-scénariste. Il est né en 73, il a commencé par le court-métrage, et en 2002, ça fait déjà 20 ans pratiquement, un premier long-métrage, Mon Idole, avec François Berléand et lui-même, Guillaume Canet. 2006, le film qu'il a vraiment révélé, et qui était excellent d'ailleurs, Ne le dit à personne, un thriller qui, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, François Cluzet, André Dussolier, Marie-Josée Croze, Guillaume Canet. 2010, là aussi un film qui a été un gros carton, Les Petits Mouchoirs, avec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel. 2013, Blood Ties, un film américain avec Clive Owen et Billy Crudup, qui était un remake d'un film français sur le gang des Lyonnais. 2016, Rock and Roll, avec Gilles Lelouch, Marion Cotillard et Guillaume Canet. Et puis en 2019, Nous finirons ensemble, qui était la suite des Petits Mouchoirs, avec la même équipe donc. Et puis Guillaume Canet, on l'a vu dans des films récents comme Le Grand Bain, L'amour est une fête, Double vie, Ces années moi, Japlou, etc., etc. Voilà, lui c'est un film d'une durée d'1h28 qu'on peut voir au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter femme et enfant pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé, les visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. Alors, la rue de presse, vous allez voir, c'est très très contrasté. On commence par Jean-Luc Wachthausen dans Le Point. Ça grince, ça balance de façon bliée, mais ça passe avec le sourire. Olivier de Bruyne, Marianne, revendiquant l'influence du Bertrand Blier, de Buffet Froid et de Merci la vie, le cinéaste arpente des territoires de fiction troublants et signe un film inégal mais original. Corinne Renoux-Lativelle dans La Croix, l'acteur-réalisateur, s'essaie au film psychanalytique, mais la finesse de l'écriture manque cruellement à la réussite du projet. Stéphane Joby, Le Journal du Dimanche, c'est ludique et enlevé par endroits, mais sans autres enjeux que les tourments midlife d'un artiste, le trip égocentrique peut lasser. Michel Troadec dans West France, le casting est épatant. Alors je rappelle que dans le casting, il y a Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz et Laetitia Casta. Il y a aussi Patrick Chenet et Nathalie Baye dans des petits rôles. Alors donc, le casting est épatant, la forme originale, mais des dialogues trop convenus ne permettent pas d'empêcher ce film pourtant court de tourner en rond. Eric Neuhoff dans Le Figaro, il faut absolument signaler à Canet qu'un imposteur a usurpé son identité pour tourner cette chose. Il ne nous reste que nos yeux pour pleurer devant ce désastre non éduqué de suffisance. Préparez vos mouchoirs, les petits. Véronique Coapé Le Monde, le film prend des allures de pièces de boulevard stéréotypées, grossières et égocentriques. Et on continue avec Renaud Baronian, le Parisien, en mettant en scène ses angoisses. Guillaume Canet aboutit à un fouillis cérébral en forme de condensé de psychologie de casino dont le spectateur n'a que faire. Léo Jimmy Baptista dans Libération, l'acteur et réalisateur tente de faire de son spleen de cadras blessé un film profond et introspectif. Résultat, bâillement et consternation. Vous voyez, c'est pas très très enthousiaste. Oui, bon, donc, lui, il est compositeur de musique, de film, en panne d'inspiration, égocentrique, dépressif. Il décide, après avoir quitté femme et enfant, de trouver refuge dans une maison isolée qu'il a louée sur une petite île bretonne pour retrouver l'inspiration et en même temps faire une sorte de bilan introspectif de sa vie de couple en difficulté. C'est la fameuse usure du couple, hein. Sa relation avec son père, mais aussi sa relation avec son fils, ses angoisses existentielles, ses liens avec ses amis, voilà, bref, donc je répète, un bilan introspectif. Alors, je vais qualifier le film de fantaisie schizophrène. On ne sait si le film est un hommage, un plagiat ou un à la manière d'eux, toujours est-il qu'immanquablement, comme l'ont dit beaucoup de critiques, on pense à Bertrand Blier de bout en bout, que ce soit pour le ton décalé permanent du film, les dialogues, les situations. On se sent donc en permanence dans un film de l'auteur des Valseuses. Alors, est-ce pertinent? En tout cas, c'est assumé de bout en bout par Guillaume Canet. Alors, on peut trouver le film complaisant, et d'ailleurs ça l'est, hein, et bon, surtout s'il y a une part autobiographique, mais c'est quand même brillamment interprété, ce qui sort quand même le film. Virginie Efira est sublime comme d'habitude, Canet est très bon, et Kassovitz aussi, ainsi que Mathieu Chenet sont très bons. Alors Laetitia Casta a un rôle un peu plus en retrait, mais bon, voilà. Hein. Reste quand même que tout ceci est dans l'art de présenter les choses, parce que les thèmes traités sont tous sauf originaux. On assiste donc à une sorte de quasi huis clos, hein. Enfin pas tout à fait huis clos, on reste dans une île, mais on sort de temps en temps de la maison, où le personnage principal multiplie les dialogues imaginaires avec ses proches, dans une sorte de règlement de conte où personne ne s'épargne. Alors, est-ce juste un procédé narratif? Est-ce un signe de schizophrénie de la part du protagoniste? Un peu des deux, en fait. Alors, est-ce drôle? Pas vraiment, même s'il y a quand même des dialogues souvent grinçants et percutants. En fait, il s'agit d'un exercice de style avec ce que cela comporte comme défaut, puisque tout est sacrifié donc à cet exercice de style. C'est pas totalement convaincant, loin de là, c'est sans doute trop artificiel. On ne peut pas dire que ce soit si original que ça dans sa mise en scène, puisque, je répète, c'est très influencé par Bertrand Blier, donc très 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 mitigé. Alors Pierre ?
Alors moi, les premiers mots qui sont venus à l'esprit en sortant du cinéma, c'est bizarre, étrange. On plonge là en effet dans l'irrationnel, psychologie, voire psychanalyse, qui interroge sur le moi, cet ego où se mêlent le bon et le mauvais, le yin et le yang, et qui nous laisse perplexe quant au résultat sur l'écran. Guillaume Canet se divise en deux, même à la deuxième partie du film, comme une abîme, afin de bien nous faire distinguer les deux parties. Prise de tête pour le spectateur, point d'interrogation. Non, si vous vous intéressez quelque peu au psyché de l'ego. Et puis n'oublions pas la beauté de Virginie Efira, de Laetitia Casta, entre les deux mon cœur balance, elles sont prises. Allez vous interroger sur votre moi. Enfin, lui, c'est le titre. Ce film présenté récemment au Festival international du film de Namur, en Belgique, est d'ailleurs annoncé comme film à énigmes. À vous de voir, donc, et d'admirer aussi, en passant, les paysages de Belle-Île-en-Mer, puisque c'est là que ça a été tourné.
Exactement. Oui. Alors, on peut aller voir le film au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Barbac, alors Barbac, toujours pareil, Méga CGR, Pâté Quinconce, mais aussi Le Colisée. Barbac, c'est un film de Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, acteur, réalisateur, scénariste, année 77. En 2010, il avait réalisé Casse Départ, co-réalisé avec son complice de l'époque Thomas Njijol et Lionel Stekete. 2012, Le Crocodile du Botswanga, avec co-réalisation de Lionel Stekete. Et 2017, Coexister, il y avait Ramzi Bedia, Jonathan Cohen, Audrey Lamy et puis lui-même Fabrice Eboué. Barbac, donc, ça dure 1h32. Barbac, c'est avec Fabrice Eboué et Marina Foïs. C'est interdit au moins de 12 ans, oui, parce qu'il y a quelques scènes un peu gore. Enfin, Vincent et Sophie sont bouchés. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise, mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique. Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n'avait connu un tel succès. L'idée de recommencer pourrait bien les titiller. Voilà, donc dans le synopsis, on vous dit quand même pratiquement un des trucs importants du film. Enfin, c'est comme ça. Hein. Caroline vient dans 20 minutes. Le politiquement correct est aux abonnés absents de ce délire réjouissant. Jean-Christophe Buisson, Le Figaro. Le scénario de ce petit chef-d'œuvre de férocité et de drôlerie, signé Fabrice Eboué, est délicieux comme une côte de bœuf de Salers. Barbara Théâtre dans Le Journal du Dimanche. Tout en alliant les répliques hilarantes et les situations joyeusement outrées, le film moque avec gourmandise les excès de la communauté végane, épingle de l'industrie agroalimentaire qui néglige la qualité et montre les bassesses de l'être humain, fondamentalement envieux. Et elle qualifie le film de savoureux. Julien Barcillon dans Télé 7 jours. L'humour de Fabrice Eboué est mordant, provoque, mais jamais gratuit et souvent jubilatoire. Trash et déjanté, cette farce macabre confirme sa talentueuse singularité. Alexandre Janouviac dans Écran large. Barbac manque de rythme et de tenue, mais se révèle une parodie mordante et décomplexée du thriller de serial killer et de la comédie romantique entre sarcasme, horreur et saillie gore. Bienvenue. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, une comédie grinçante qui finit par tourner en rond. Thomas Borès dans Première, certaines séquences jubilatoires, celle du cadavre caché derrière le canapé par exemple, font toutefois regretter que le comédien cinéaste ne se fasse pas plus confiance et n'ose l'excès pour toucher du doigt le malaise. Oh, bah pourtant, l'excès, il y a certains qui vont trouver que c'est quand même très excessif. Hein. Bon, donc c'est une comédie à l'humour noir. Si vous n'aimez pas l'humour noir, il ne faut pas aller voir Barbac, hein, ça c'est sûr. Une comédie à l'humour noir salutaire qui se moque des véganes avec une certaine verve. Voilà, hein. Donc c'est Vincent et Sophie, ils sont un couple de bouchers au bord de la rupture. L'affaire bat de l'aile, comme leur relation d'ailleurs. C'est la fameuse usure du couple, là aussi. Hein, ça devient un thème vraiment récurrent dans le cinéma. Et dont le magasin vient d'être vandalisé par un commando végan. On a vu ça dans l'actualité récente. Hein, des véganes qui viennent barbouiller de faux sang les devantures des magasins de boucherie. Quoi. Voilà. Donc à la suite d'un accident, hein, c'est vraiment un accident, ils tuent l'un d'eux, qu'ils ont reconnu. Et pour se débarrasser de son corps, ils vont imaginer un stratagème Donc les stratagèmes, on vous l'a indiqué dans le synopsis, mais un stratagème inspiré en fait de la célèbre émission faite entrer l'accusé avec Ondelat, je ne me rappelle plus le prénom d'Ondelat, peu importe. Christophe Ondelat. Oui. Et d'ailleurs, on le voit dans le film présenter l'émission avec des tueurs en série, avec des noms toujours pas possibles, des surnoms plutôt toujours pas possibles. Donc voilà, Sophie est une vraie fan de faite entrer l'accusé. Et contre toute attente, eh bien, cela va rebooster leur couple et leur commerce avec un certain machiavélisme. Voilà. Alors, c'est gore, juste ce qu'il faut pour expliquer l'interdiction aux 12 ans. Mais c'est vraiment drôle avec des dialogues jouissifs, de l'imagination, de la démesure dans la situation, deux acteurs qui s'en donnent vraiment à cœur joie. Ça suffit largement pour donner une comédie féroce, pas correcte du tout, fort amusante. Alors, certes, il y a quelques baisses de rythme hein, sur 1h30, mais je répète, si on aime ce genre d'humour qui ne respecte rien, il faut absolument se laisser tenter par cette comédie noire, plutôt déjantée. Pour moi, c'est l'un des deux films de la semaine, même si je n'ai pas vu tous les films, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé, Barbac. J'aime beaucoup Fabrice Eboué, hein, il a un humour qui me plaît beaucoup.
Oui, c'est un comique de scène, n'oublions pas.
Oui, dans le stand-up, et il est vraiment des milliers de coudées au-dessus de ce qui se pratique dans le stand-up aujourd'hui, qui est souvent la plupart du temps navrant. Voilà, donc Barbac, Colisée, Méga CGR, Pâté Quinconce. Petite pause musicale. Dans Lui, on entend une chanson que Pierre et moi adorons.
Oui, je l'ai réclamée.
Elle était prévue. C'est probablement l'un des plus beaux slows de tous les temps avec Whiter Shade of Pale, enfin des trucs comme ça. Oui. C'est 10cc, I'm Not In Love. Et comme on a quand même du temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films, on va l'écouter.
Et là, on est en 1975.
Voilà, et il y a 6 minutes de I'm Not In Love. Vous connaissez forcément si vous avez dépassé les 50 ans.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. That much.
I'm Not In Love, Ten CC, un titre qui à lui seul a contribué à une bonne partie de la natalité à la moitié des années 70.
Et on l'entend presque en entier dans le film. Hein.
Oui, 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 absolument. Oui. Ça a été repris depuis hein, par Beck notamment. Alors, est-ce que vous, Pierre, sait ce que signifie le nom du groupe Ten CC?
Non, c'est une colle.
Ah, alors là, je vais t'apprendre quelque chose. Alors en fait.
Si, c'est des initiales, non?
10 cm cubes, ça signifie.
Ah
10 cm cubes. Alors là, évidemment, c'est interdit moins de 12 ans, mon explication, parce que c'est l'explication. 10 cm cubes, ça correspond à, en moyenne à la quantité de sperme lors d'une éjaculation.
Oui, bah, y a des scènes d'amour hein, dans le film d'ailleurs.
Voilà, mais donc c'est le nom du groupe Ten CC, vient de là. Je viens encore de le vérifier parce que j'avais déjà entendu cette explication, mais je viens encore de le vérifier. Voilà, Ten CC, I'm Not In Love, l'un des plus beaux slows de tous les temps. Mais est-ce que les jeunes savent ce que c'est qu'un slow? Ça n'existe plus, ça.
Le terme, non.
Mais même, est-ce que tu peux me citer actuellement des chansons qui sont des slows?
Pas vraiment, non.
Ben non, c'est un truc qui a disparu, c'est incroyable. C'est... Bon, tant pis.
Si, Adèle, actuellement.
Ah, peut-être, oui, c'est vrai.
C'est assez
oui,
lent,
peut-être.
Quand même.
Oui, c'est vrai.
C'est assez lent.
Bon, allez, hop, The French Dispatch. The French Dispatch, c'est un film de Wes Anderson proposé exclusivement au cinéaste avec deux, et le plus souvent, trois séances par jour. Non, deux ou trois séances par jour, c'est à peu près équivalent. Wes Anderson, réalisateur, scénariste, producteur américain, né en 69. 96, un premier film envoyé en DVD qui s'appelait Bottle Rocket, mais en 98, on le découvre avec Rushmore, avec Jason Schwartzman et Bill Murray. Bill Murray qui va devenir un de ses acteurs fétiches. D'ailleurs, Jason Schwartzman aussi. 2001, La famille Tenenbaum, avec Gene Hackman, Gwyneth Paltrow... Luke Wilson. 2003, La vie aquatique avec Bill Murray et Owen Wilson. 2007, À bord du Darjeeling Express avec Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman. 2009, Fantastic Mr. Fox, c'est un dessin animé. 2012, Moonrise Kingdom avec Bruce Willis et Edward Norton. 2014, The Grand Budapest Hotel avec Ralph Fiennes, Farid Murray Abraham. 2018, L'île aux chiens, et puis c'est un film d'animation, L'île aux chiens, et puis également des courts-métrages. Wes Anderson, The French Dispatch, durée 1h48, The French Dispatch met en scène un recueil d'histoires tirées du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Voilà, on n'en dit pas trop dans le synopsis, la revue de presse, là aussi partagée. Sophie Fuber, L'humanité. On pourrait le voir plusieurs fois sans en épuiser toute la richesse, tant il offre un foisonnement de signes, propose à chaque plan différents niveaux de lecture, visuels et sonores, mélange le français et l'anglais, le noir et blanc et la couleur. Caroline dit dans 20 minutes, le monde de Wes Anderson est foisonnant à souhait. Avoir l'occasion de le feuilleter ainsi comme un magazine de papier glacé est un régal total pour les yeux comme pour l'esprit. Stéphane Dreyfus dans La Croix, cette préciosité d'un cinéaste cinéphile et surdoué, lui a parfois joué des tours quand la méticulosité formelle étouffait l'émotion. Ce n'est pas le cas ici, où l'hommage à la grande presse et à la France, pays des arts, des arbres et des lois culinaires, laisse poindre une irrésistible poésie tragicomique. Qui est richesse dans l'Ouest-France, chaque plan de ce film au casting de feu, captive par sa beauté, mais cette obsession formelle se fait parfois au détriment des intrigues. Car elle fit aussi dans Paris Match, cet impressionnant livre d'images est une gourmandise pour les yeux, il est également une anthologie, voire une hagiographie, tendance Pinterest du cinéma d'Anderson, qui se cite plus qu'il ne se transforme. C'est un peu vrai ça. Hein Renan Gros, cinéma teaser, le moins bon film de Wes Anderson et pourtant son plus intéressant théoriquement. Adrien Gombeau, Les Échos, retour du réalisateur de The Grand Budapest Hotel avec un film qui séduira ses admirateurs mais ne surprendra personne. La rédaction du Parisien, The French Dispatch, n'est qu'une carte postale bon baiser du pays de l'ennui avec une énorme signature. Ben oui, je suis un peu d'accord avec ce que je viens de vous lire sur ceux qui ont apprécié modérément, voire pas du tout. Je dirais que trop de fantaisie finit par tuer la fantaisie et surtout l'émotion. C'est la réflexion que je me suis faite après la projection. Alors certes, on retrouve tout ce qui fait l'univers si particulier du cinéaste Wes Anderson. Un film de Wes Anderson, ça se voit sans savoir que c'est de Wes Anderson, ça se voit obligatoirement. Comme un film de Bertrand Blier, ça se voit que c'est du Bertrand Blier, sans savoir que c'est de Bertrand Blier. On retrouve donc son inventivité à créer des décors, des costumes, des accessoires insolites, saugrenus. Mais cette fois, au service d'une histoire qui ne prend pas vraiment. En tous les cas, moi, ça m'a pas vraiment pris. La structure du film est composée de 4 sketchs, avec un prologue et un épilogue. Et un épilogue, oui, c'est ça. Soit l'histoire d'un improbable magazine américain avec une édition française. Le film présente donc la naissance de ce journal, puis raconte 4 histoires complètement indépendantes les unes des autres, correspondant à des rubriques de cette publication. Alors, gros casting franco-américain. Je ne vais pas citer des acteurs parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray, Mathieu Amalric, etc., etc. Donc un très très gros casting, jusque dans les plus petits rôles. Une fantaisie foisonnante, oui je reprends le terme qui a été employé par certains critiques, une foisonnante et de tous les instants, dans la direction artistique, la mise en scène avec des cadrages très particuliers, l'alternance couleur noir et blanc, les choix musicaux, on va en passer un ou deux, mais finalement, des histoires qui perdent leur intérêt parce qu'elles sont noyées sous un flot de dialogue et complètement phagocytées par ce dispositif brillant mais qui bouffe les histoires. Alors ça donne un film au total dont on ne peut qu'admirer la virtuosité, l'inventivité, la richesse de l'imagination, mais qui finit par ennuyer tant la forme impeccable l'emporte sur le fond, certes plein de fantaisie mais qui m'a laissé froid. Voilà, donc petite déception parce que je suis plutôt fan des films de Wes Anderson, mais Wes Anderson ça tourne en rond maintenant, c'est systématiquement la même chose, donc bon bref, voilà, bon, alors on peut le voir quand même au cinéaste, uniquement au cinéaste, donc en version originale, 2 voire 3 séances par jour. La fracture c'est proposé par le cinéma méga CGR, par le cinéma Pathé Quinconce et enfin également par les cinéastes avec 2 voire 3 séances par jour. C'est un film de Catherine Corsini. Catherine Corsini, c'est une réalisatrice, scénariste, actrice née en 56, française bien sûr. 86, on l'avait découverte avec Poker, un film avec Caroline Cellier et un tout jeune Patrice Arditi. 92, Interdit d'amour, ça je ne sais pas si le film a été distribué en France, sur les grands écrans. 93, Les Amoureux avec Nathalie Richard. 97, Denis avec Dominique Raymond, Pascal Cerveau qui a été longtemps un de ses acteurs fétiches. 98, ça je m'en souviens, La Nouvelle Ève avec Karine Viard et Catherine Fro. 2001, La Répétition avec Emmanuel Béart, Pascal Bussière. 2003, Marié mais pas trop avec Jane Birkin et Émilie Dequesne. 2006, Les Ambitieux, Karine Viard, Eric Caravaca. 2009, Partir avec Christine Scott Thomas, Yvan Attal et Sergi Lopez. 2011, Trois Mondes avec Raphaël Personnaz et Clotilde M. 2015, La Belle Saison avec Cécile de France et Isia Higelin. Et 2018, Un Amour Impossible avec Virginie Efira et Nils Schneider. Je crois qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs sur ce film-là. Il me semble bien pour faire notre rubrique People. Alors, La Fracture, 1h38. Donc, je répète, cinéaste, méga CGR, Pathé Quinconce. Raph et Julie, un couple au bord de la rupture. C'est deux femmes. Hein. Raph, c'est un prénom. Ça doit être Raphaël. Et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte, l'hôpital sous pression doit fermer ses portes. Le personnel est débordé, la nuit va être longue. À la Ouest-France, Gilles Kerdreux, film de révolte, mais aussi d'espoir en l'humain. C'est un véritable miroir de notre époque. Perrine Kenesson dans Cinématiseur, Catherine Corsini n'en finit pas de faire résonner le politique et l'intime dans cette triple fracture qui sans cesse surprend, réconforte et ravive sainement une colère que l'on croyait éteinte. Françoise Delbecq dans Elle, cette tragicomédie reflète avec sensibilité et humour la violence du monde d'aujourd'hui. Première, alors il y a un pour, il y a un contre. Première pour Thierry Chaise. Le résultat n'est pas parfait, mais ce sont précisément ses imprécisions, son refus de rester sagement dans le cadre qui permettent à Catherine Corsini de signer son film le plus passionnant à ce jour. La Croix, Céline Rouden, ce croisement périlleux entre l'intime et le politique, la comédie et le documentaire social, aurait pu ne pas fonctionner. Pourtant, l'alchimie se fait grâce à un scénario au cordeau, au talent de ses acteurs et à la caméra habile de Jeanne Lapoirie. Marie-Lou Duponchel dans Les Inrecuptibles, si le film se révèle assez didactique dans la manière qu'il a d'opposer puis de faire se rencontrer les mondes qui ne se croisent pas, il décrit avec un certain allant une drôlerie mais aussi une gravité, l'invraisemblable, l'ineptie loufoque de notre époque. Télé 7 jours, Isabelle Magnier, c'est tragicomique, politique et généreux, même si le récit est un peu didactique. Fabrice Leclerc, Paris Match, même si le propos social est parfois trop surligné, parfois un peu attendu, il y a une finesse dans l'écriture qui rend ce film autrement intriguant, séduisant, assez singulier en tout cas, pour remporter le morceau. Eh bien, le morceau n'a pas été remporté pour Jacques Mandelbaum. Photographie d'un moment de rupture générale, le film tente d'en organiser le chaos, mais finit par se dissoudre inexorablement dans la prolifération des événements et des registres qu'il fait entrer dans le cadre, tant leur juxtaposition scénaristique paraît tirée par les cheveux. Le Parisien. Plus le film avance, plus les gilets jaunes qui manifestent convergent en masse vers l'hôpital, plus la caricature devient lourde. Certains candidats politiques, le film plaira aux convaincus d'avance de ses thèses et agacera les amateurs d'un cinéma un peu moins simpliste. Olivier de Bruyne dans Les Échos, entre naturalisme âpre et humour désespéré, Catherine Corsini met en scène une fiction ancrée dans la réalité où, hélas, l'artifice et les maladresses règnent en maître. Voilà pour ce film, La Fracture, je l'ai vu au cinéaste, mais on peut le voir aussi au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Donc, un après-midi et une nuit dans le service d'urgence d'un hôpital parisien, vu comme un microcosme de la société actuelle, où se croise un couple de femmes bobos en pleine rupture, venues pour la fracture du coude de l'une d'elles. On trouve également un gilet jaune routier qui a pris un projectile dans la jambe au cours d'une manifestation, et quelques autres, dont un gars par exemple qui souffre de graves troubles mentaux, une mamie qui a fait un malaise chez elle, d'autres manifestants, et puis le personnel hospitalier bien sûr qui est dévoué certes, mais de plus en plus débordé au fur et à mesure de l'avancée de la nuit et de l'arrivée de nouveaux blessés de la manif par exemple, d'où une tension de plus en plus vive, avec des cris, des menaces, des impatiences, des incompréhensions, et ça vire progressivement à une sorte de chaos. Alors mon opinion, comme pas mal de critiques, est mitigée, tant le film alterne des moments forts et d'autres beaucoup moins, et tant il se veut par moments vraiment démonstratif. Alors les bonnes intentions de la réalisatrice, ou les intentions de la réalisatrice, bonnes ou pas bonnes, ça c'est au point de vue, sont évidentes, sa démonstration elle est parfois un peu moins convaincante. On a déjà beaucoup vu de séries, de reportages, de documentaires sur les services d'urgence débordés. Et ici en plus se greffe la problématique gilet jaune, pour laquelle on sent bien que Catherine Corsini a quand même une grosse, grosse sympathie. C'est donc parfois un peu brouillon et attendu. Le couple Valeria Bruni-Tedeschi et Marina Foïs peut susciter à certains moments l'empathie, mais aussi souvent l'agacement. Hein. Beaucoup de critiques parlent d'un film drôle. Bah, moi, je n'ai pas trouvé si drôle que ça, à moins de considérer drôle les crises d'hystérie du personnage joué par Valeria Bruni-Tedeschi. Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça très, très drôle. Bon, je dirais plutôt une comédie sociale qui parle surtout de l'hôpital et des difficultés auxquelles cette institution est confrontée. Manque de personnel, attente interminable des patients dans les couloirs, ça c'est le côté que je retiens du film. Par contre, les problèmes sentimentaux du couple de lesbiennes m'ont laissé en revanche totalement indifférent, à l'inverse du personnage d'ailleurs très énervé joué par Pio Marmaille, que j'ai trouvé lui excellent. C'est un film qui veut sans doute trop bien faire et qui se perd en cours de route, je dirais. Voilà, donc La Fracture, c'est un film qu'on peut voir au Méga CGR, au Pâté Quinconce et au Cinéaste. Voilà, petite pause musicale, je vous dis que dans The French Dispatch On avait une bande originale très très variée. Eh bien, on va écouter un titre Aline. Oui, mais c'est pas la version de Christophe. Aline par Jarvis Crocker. C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Aline, le fameux slow, là aussi, des années 60.
Qui me souriait, puis il a plu sous cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié. J'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais chaud de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire. Et sans son espoir pour me guider, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage. Sous le sable mouillé, ouais. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Ah, j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré.
Aline, le titre qui a fait connaître Christophe, repris ici par Jarvis Cocker et qu'on entend dans The French Dispatch. Voilà, ben oui, on peut préférer la version de Christophe. Hein.
Ah oui, oui. Bah oui, bon. Fan des 60s, c'est normal. Ben 1965,
oui.
Hein, Christophe.
Ah oui, oui, oui. C'est ça. À la même année que Caprice est fini.
Voilà, tout à fait, oui.
Voilà, je m'en souviens, j'ai vu les deux dans un gala, alors voilà. Bien, Last Night in Soho, Last Night in Soho, c'est proposé par le méga CGR et par les cinéastes, pardon, n'importe quoi, et par le Colisée, hein, le Colisée. Alors il y a très peu de versions originales, il y en a juste une, je crois, ce soir, vendredi, au Colisée, mais sinon c'est un film qui est en version française. C'est un peu dommage, même si la version française est quand même plutôt de qualité. Le film est réalisé par Edgar Wright. Vous connaissez certainement Edgar Wright, ou en tous les cas ses films, acteur, réalisateur, scénariste britannique dans 1974. Vous connaissez probablement pas Fistful of Fingers, parce que ça, c'est inédit. Mais par contre, si vous aimez les films d'horreur, comiques, un petit peu, 2004, Shaun of the Dead, avec Simon Pegg et Nick Frost. 2007, Hot Fuzz, avec les mêmes. 2010, Scott Pilgrim, avec Jason Schwartzman et Michael Cera. 2013, Le Dernier Pub avant la fin du monde, avec Simon Pegg et Nick Frost. 2017, un très très bon film, Baby Driver, dont on devrait pas tarder à avoir le numéro 2 dans quelques mois. Un film Baby Driver avec la sublimissime Lily James, Kevin Spacey, avant qu'il soit blacklisté, et Ansel Elgort. Et puis 2021, il a réalisé un documentaire sur les Sparks, le couple Les Sparks, The Sparks Brothers, qui est sorti, je crois, cet été, au moment où est sorti le film
au de cinéma,
Léos Carax. Oui,
oui, oui, je crois.
Last Night in Soho, en durée 1h57, interdit au moins de 12 ans. Last Night in Soho met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît et le temps semble se désagréger, entraînant de sombres répercussions. Alors là, le synopsis ne vous dit pas grand-chose sur le film, hein, faut bien reconnaître. Thierry Chaise, West France, Edgar Wright raconte par le prisme du fantastique les aspects sombres d'une décennie flamboyante avec deux merveilleuses interprètes. Alors les deux merveilleuses interprètes, c'est Thomasine McKenzie et Anna Taylor-Joy. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, on est envoûté par l'atmosphère inquiétante, l'univers visuel sophistiqué et la singularité de ce récit initiatique, ambitieux et malin sur le passage à l'âge adulte d'une héroïne coincée dans un autrefois idéalisé qui cherche en vain sa place dans le monde. Frédéric Foubert dans Première. Comme le Once Upon a Time in Hollywood de l'ami Tarantino, c'est un film à la patine fun, mais bourré d'idées noires, un bonbon coloré au goût amer. Nicolas Scheller dans L'Obs. Mise en scène et bande de son à tomber. La première heure est époustouflante. Las, Edgar Wright alourdit tout. Autant mystère et frisson à son giallo polanskien aux airs clinquants de comédie musicale. Ouais, il y a des références au giallo cinéma d'horreur italien, à Polanski aussi. Marie Sauvion, Télérama, si le scénario finit par s'effilocher. Ce nouveau film d'horreur post-hashtag MeToo a le mérite de régler son compte à une idée reçue qui a la vie dure. C'était mieux avant. En rappelant à l'écran deux stars emblématiques de ces années-là, Diana Rigg et Terence Stamp. Le Figaro, après une demi-heure aux couleurs bonbons et à l'optimisme naïf, la fable dérape dans un giallo gore et laid, superposant un récit féministe, allégorie de la folie avec les codes du film Fantôme. Ce voyage dans le temps tourne aux millefeuilles indigestes à l'issue prévisible. Théorie Beton, les irrecuptibles, Wright s'en mêle tellement les pinceaux dans son histoire d'horreur que son héroïne finit plus ou moins par venger des fantômes de violeurs. Comment en est-on arrivé là? Ah ben oui, allez voir le film parce que moi j'ai beaucoup aimé Last Night in Soho, c'était une surprise d'ailleurs. Hein. Le film, c'est un thriller fantastique, mais il ne devient un thriller fantastique qu'au bout de trois quarts d'heure. Et c'est un film qui dure 1h50. Donc auparavant, donc, les trois premiers quarts d'heure, on assiste à l'arrivée dans le Londres d'aujourd'hui d'Héloïse. Héloïse est une jeune provinciale venue là pour faire des études de styliste, comme jadis sa mère, aujourd'hui décédée. Les débuts pour elle sont un petit peu difficiles parce que la jeune fille est un peu naïve et ses collègues ne la ménagent guère, se moquant d'elle, de ses manières provinciales et jalousant aussi son talent protecteur. Alors elle décide de déménager de sa résidence étudiante et elle emménage chez une vieille dame qui lui loue une chambre. Et là, dès la première nuit, de façon inexplicable, elle se retrouve plongée, rêve ou hallucination, on ne sait, dans l'ambiance du swinging London des années 60, hein, où elle se retrouve dans la peau. Est-ce que c'est dans la peau ou est-ce qu'elle voit en même temps, on ne sait pas trop, d'une jeune fille de l'époque, jeune fille bien décidée à réussir dans la chanson. Alors, ce qui commence comme une success story pour cette jeune fille des années 60 tourne vite au cauchemar et le film plonge dans une atmosphère d'horreur fantastique. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un film surprenant par ses ruptures de ton et ses différentes ambiances, le Londres d'aujourd'hui, celui des années 60. Et puis, moi, j'ai trouvé ça fort séduisant à suivre. Ça mêle film de maison hantée par des fantômes terrifiants, violence masculine, film d'enquête, évocation d'époques différentes. La réalisation est très efficace avec un esthétisme très soigné, notamment la direction artistique qui est vraiment digne d'éloge. Visuellement, je trouve que c'est absolument superbe. La BO, alors ça c'est un pur bonheur. Pierre, c'est fait pour lui. Et pour ceux qui aiment les vieux tubes des années 60s, il y a Petula Clark, Downtown, il y a Héloïse de Barry Ryan, il y a Sandy Shaw, Puppet on the String, et puis tous les bons vieux.
Eurovision, Sandy Shaw.
Hein, ouais. Oui. Tous les bons vieux tubes de Burt Bacharach, pris par Dusty Springfield et d'autres. Mm. Les deux actrices principales sont excellentes. Alors certains reprocheront peut-être un abus d'effet choc. C'est pas mon cas. J'ai trouvé le film particulièrement bien mené avec une recréation d'atmosphère vraiment impressionnante. Pour moi, c'est une très bonne surprise à l'arrivée. Je n'avais pas vraiment prévu d'aller le voir. C'est une question d'horaire qui a fait que je l'ai vu. Et très bonne surprise à l'arrivée. Même la VF n'est pas mauvaise. J'ai vu le film en VF parce que je n'avais pas trop le choix. Et bien, elle est même pas mal du tout. Donc, c'est plutôt une bonne surprise, ce Last Night in Soho. Dernier film à l'affiche, bah, c'est celui que je n'ai pas vu. Pig. Pig, c'est un film d'1h31 proposé par les cinéastes. Oh, très peu de séances pour Pig 2, voire une seule séance par jour. Pour ce film réalisé par Michael Sarnowski. Michael Sarnowski, ça doit bien être son premier film parce que je n'ai pas trouvé dans mes recherches d'autres films de ce Michael Sarnowski. Un chasseur de truffes, c'est Nicolas Cage, vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon quand l'enlèvement de sa truie truffière, le pousse à retourner vers la civilisation à Portland, où il devra faire face aux démons de son passé. Ben, la rue de presse est très élogieuse, ça donne envie d'aller voir le film. 20 minutes, Caroline Vier, malgré ses allures d'histoire de vengeance, Pig, et film original découvert à Deauville, célèbre surtout la gastronomie. L'acteur Nicolas Cage y livre une performance superbe, tout en sobriété. Mathieu Jaborska, dans Écran large. Pig détourne volontairement les archétypes présupposés par son pitch pour envoyer un Nicolas Cage touchant faire voler en éclats la sophistication mondaine. Le pouvoir du récit l'emporte sur la violence et ça rend l'exercice encore plus libérateur. Stéphanie Belpech dans le journal Dimanche, un drame intimiste qui privilégie la réconciliation et la vengeance où l'émotion surgit sans prévenir. Jacques Van Delmoom, Le Monde, Nicolas Cage de retour dans un film noir inclassable. Jackie Goldberg les a recueillis, Sarnowski pour son premier long métrage est resté dans les plots du cinéma indépendant américain avec sa structure narrative classique et sa mise en scène très sage, quoique élégante, et réussissant à faire ressentir la fatigue existentielle de son héros. Nicolas Chaleur dans L'Obs, Cage, look de clochard, barbe de bûcheron est touchant au diapason de ce drôle de drame où le goût des bonnes choses se pose en dernier rempart contre un monde mortifère ravagé par la cupidité. Voilà, 1h30 pour Pig, proposé uniquement aux cinéastes avec une ou deux séances par jour.
Pas vu,
mais j'irai peut-être le voir lundi ou mardi. Allez, on revient dans la bande originale du film The French Dispatch. On va écouter, c'est peut-être une première sur Radio Alpa, Chantal Goya.
Oh.
Et oui, Chantal Goya, avant d'être l'idole des petits marmousets, dans les années 60, c'était une idole yéyé.
Une chanteuse yéyé.
Il ne faut pas oublier qu'elle a en plus tourné aussi pour Godard à l'époque. C'est une chanteuse yéyé au même titre que Sylvie Vartan ou Françoise Hardy. Elle avait un gros, gros succès. Et bien là, vous allez écouter Chantal Goya dans Tu m'as trop menti sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. Tu connaissais mon adresse, tu ne m'as pas écrit. Tu m'as fait trop de peine quand tout au long des jours j'attendais que revienne l'écho d'un plus beau jour. Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. D'autres filles à ces promesses ont déjà dit oui. T'amusant de mes larmes versées pour cet amour, t'amusant de mon âme, tu me laisses à mes jours. Tu m'as trop menti. Je n'ai plus que la tristesse pour croire à la vie, implorant l'existence qu'un jour tu comprendras. Et pour ma délivrance, je pourrai croire en toi. Je pourrai croire en toi.
Tu m'as trop menti, Chantal Goya. Un titre que l'on entend dans The French Dispatch. À l'époque, on faisait des chansons de moins de 2 minutes. C'est un peu normal, hein, c'est un twist et c'était absolument épuisant comme danse, le twist. Voilà, alors la semaine prochaine, eh bien, on va déjà commencer par des avant-premières ou des films un petit peu hors série. Si vous nous écoutez en direct, eh bien, samedi 30, les cinéastes vont proposer à 19h30 Grave, le premier film de Julia Ducournau, la première réalisation de cette réalisatrice qui a eu la Palme d'Or cette année pour Titane. Grave, c'était très bien, c'est beaucoup mieux que Titane, hein, franchement. Bon. Sinon, la soirée bis menstruelle. C'est une association qui propose des films d'horreur des années 60. Et donc, cette semaine, le... samedi, c'est vendredi, Julia Ducournau, 19h30. Et là, pour la soirée bis menstruelle, c'est aussi ce soir à 20h, La Chambre des Tortures de Roger Corman, et en 21h30, Le Masque de la Mort Rouge de Roger Corman également. Voilà, n'oubliez pas non plus que pendant les vacances qui se poursuivent, eh bien, il y a Graines d'Images Junior,
oui,
qui vous est proposé par les cinéastes.
Dimanche, une journée spéciale, hein, d'avant-première.
Ah! Alors, vas-y.
Avec En attendant la neige, Les voisins de mes voisins sont mes voisins, Maman pleut des cordes, et enfin Belle. Alors, c'est une journée spéciale Halloween. Pour 4 euros la séance, vous avez droit à initiation à la sérigraphie, atelier maquillage, initiation à la pixilation. Alors, c'est la technique pas des dessins animés, mais d'animation. Mmh. Et puis enfin, espace d'exposition des décors et making-of des films. Et le tout avec un petit déjeuner pour le film du matin et un goûter pour l'après-midi.
Eh bien,
tout ça pour 4 euros.
Eh ben, il ne faut pas vous en priver.
Oui.
Alors, pour ce qui est des avant-premières, eh bien, ce soir, si vous nous écoutez en direct, le pâté Quinconce vous propose à 20h Affamé. Affamé, c'est un film d'horreur, dont il y aura une avant-première dimanche au Méga CGR à 22h15. Et oui, 22h15, parce que le lendemain, vous pourrez faire la grasse matinée. Le 1er novembre, c'est férié. Donc, le 1er novembre, vous pourrez aller voir, par exemple, au Méga CGR, au pâté Quinconce ou au Colisée, avec des horaires différents. Aline, le film de... ça y est, boum.
Avec Valérie Lemercier.
De Valérie Lemercier.
Oui, oui.
Alors donc, je vous donne les horaires. 13h30 au pâté, 17h45 au Méga, 18h au Colisée. Mais déjà, le dimanche 31, vous auriez pu aller au Méga CGR à 18h voir l'avant-première du film Si on chantait. Voilà, donc ça fait beaucoup d'avant-premières. Je répète, au pâté ce soir à 20h, Affamé, que vous pourrez revoir éventuellement, ou aller voir simplement une fois, à 22h15 le dimanche au Méga CGR. Le dimanche, toujours au Méga CGR à 18h, Si on chantait, film français. Il y a une bonne idée de départ, après je ne sais pas comment c'est goupillé, le film... doit pas être trop long, il va faire 1h30, bon, on va voir. Et puis donc, Aline, moi je l'ai vu, hein, ça vaut le coup, si vous aimez, même si on n'est pas forcément fan de Céline Dion, c'est intéressant. C'est donc les avant-premières, pâté 13h50, méga 17h45, Colisée 18h.
La bande-annonce est alléchante.
Oui, les films à l'affiche la semaine prochaine, Les Éternels, une marvellerie, comme je dis, de Chloé Zhao qui a obtenu l'Oscar pour Nomadland, qui se lance dans Les Éternels. Alors, je le dis tout de suite, je n'irai pas le voir, 2h37, et je crois que notre ami Pierre...
J'aime pas les films trop longs.
Voilà, mais Marvel, c'est... Bon, voilà. Autre film à l'affiche la semaine prochaine, Les Olympiades, de Jacques Audiard. Moi, je l'ai vu, c'est un film générationnel, sur les trentenaires à peu près, qui se déroule à Paris, dans le quartier... dit les Olympiades, c'est le quartier chinois. Hein. C'est pas inintéressant, mais c'est un peu étonnant de la part de Jacques Audiard, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des films un peu plus thrillers, quoi, en quelque sorte. Autre film à l'affiche, donc Si on chantait, bien entendu, Albatros de Xavier Beauvois, compartiment numéro 6, ça c'est prévu au cinéaste. Alors, y aura-t-il My Son de Christian Carion? Je ne sais pas. Christian Carion, c'est un réalisateur qui est quand même assez connu. Mais My Son, c'est le remake de son film Mon Garçon avec Guillaume Canet. Donc, est-ce qu'on aura droit au remake en France avec une sortie au Mans? Je n'en sais rien. Voilà, pour ce qui est des films que je vous recommande cette semaine, moi, je vous recommande Barbac, si vous aimez vraiment l'humour noir. Et Last Night in Soho, moi, j'ai bien aimé, ça a été une bonne surprise. On est plus mitigé sur les autres.
Oui. Bah lui, oui, moi j'ai aimé quand même, mais enfin avec avertissement quand même, si vous avez écouté tout à l'heure mon avis, c'est un peu spécial. J'ai utilisé un mot moderne, c'est un peu space.
Voilà, absolument. Eh bien sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Et on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir. Thank you.